chef de file des soins infirmiers, assurant la sauvegarde des hautes normes de qualité, cherchant à promouvoir l'enseignement, la recherche, l'encadrement, le soutien et le développement des compétences et de l'excellence clinique. Nous sommes la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu. Bienvenue à Savoir et Stéthoscope.
Bienvenue à ce troisième épisode de Savoir et Stéthoscope. Aujourd'hui, nous allons parler de la gériatrie plus tendance qu'on peut le croire. On accueille avec nous en studio Didier Maillot-Bisson, infirmier clinicien et professeur à l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke, spécialisé en soins aux personnes âgées, chercheur régulier au Centre de recherche sur le vieillissement. Et Véronique Poulain, chargée de formation pratique à l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke et infirmière en pratique avancée spécialisée en gériatrie au CIUS de l'Estrichu. Bonjour à vous.
Bonjour.
Soins sécuritaires,
réontologie, L3S,
acte réservé.
Ai-je le droit?
Ai-je le droit comme infirmier ou infirmière auxiliaire de compléter ou de faire compléter des outils de repérage psychométrique pour valider la présence d'un trouble neurocognitif comme le Folstein ou le MoCA chez la clientèle aînée? La réponse est oui. Les infirmiers et infirmières auxiliaires sont habilités selon leur champ d'exercice en matière de contribution à l'évaluation à compléter ou faire compléter ces outils psychométriques. Par cette intervention, ils et elles contribuent à la collecte de données nécessaires à l'évaluation. Cet acte s'inscrit aussi dans l'activité réservée infirmière auxiliaire qui est d'observer l'état de conscience d'une personne et surveiller les signes neurologiques. Elle est réalisée selon une ordonnance, une directive OPTI ou un protocole, parfois de façon autonome. Dans tous les cas, comme les infirmiers et infirmières auxiliaires contribuent à l'évaluation, ils et elles doivent ensuite assurer le suivi du résultat à l'infirmière, l'infirmier ou au médecin responsable afin que le résultat soit intégré à l'évaluation globale de la personne âgée et qu'un suivi clinique approprié soit assuré. Les professionnels doivent aussi détenir les compétences et connaissances nécessaires à la réalisation de ces tests de dépistage cognitif, de façon notamment à ne pas interférer avec la validité du résultat obtenu. Donc, saviez-vous que la croissance démographique des personnes âgées de 75 ans ou plus, qui est en 2025 environ 11 % de la population, va être en 2036 de 15 % de la population du Québec? Et les personnes âgées à cette tranche d'âge sont susceptibles d'avoir de multiples facteurs de fragilité et de visiter davantage les hôpitaux et d'être, bien sûr, hébergées. Alors, pour les ordres professionnels, notamment pour l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, le message est clair. Il faut parfaire les connaissances des professionnels en soins de santé aux personnes âgées. Et à cet effet, il faut voir à développer davantage une expertise avancée dans ce domaine-là. Donc, j'enchaîne d'ailleurs avec la première question pour vous, donc Didier et Véronique. On parle souvent de la situation des soins aux personnes âgées dans les médias. Pourquoi cet intérêt-là est de plus en plus marqué là, pour les personnes âgées?
Bien, tu l'as nommé, Julie, déjà dans ton introduction. Là, c'est évident qu'il y a un vieillissement de la population. On entend parler depuis longtemps et là, on le vit. En 2036, c'est 15 % de la population qui va être des aînés. Mais ce qui est bien avec l'espérance de vie qui augmente puis tout ça, c'est que les gens vivent plus longtemps. Mais l'important aussi, c'est qu'il faut qu'ils restent avec une qualité de vie puis moins de fragilité. Fait que c'est là l'enjeu, c'est qu'il faut balancer entre l'équilibre entre vieillir, mais vieillir en santé. Fait que plus notre population est vieillissante, plus que des fois on a des pathologies complexes à gérer, de la comorbidité, de la perte d'autonomie, des enjeux sociaux et environnementaux. Fait que c'est ça la complexité de travailler avec les personnes âgées.
Est-ce que nécessairement toutes les personnes âgées sont dites fragiles? Parce que tu parlais de fragilité.
Faut pas non plus tomber dans cet a priori-là de se dire que toutes les personnes âgées sont fragiles. Je vais vous donner un exemple. Quand je travaillais à l'équipe de consultation de gériatrie, une année, j'avais une dame de 88 ans. Il nous avait demandé pour fracture de la cheville droite. Fait que tu sais, tu dis 88 ans, je vais arriver avec une dame qui est en résidence, qui est en perte d'autonomie. Puis ça, au contraire, c'était une dame très active. Elle allait à la piscine tous les jours. Elle prenait sa marche. Puis là, elle a juste eu une légère chute qui a fracturé sa cheville. Un coup, ça a été réparé. Puis elle a repris sa vie et son activité, puis c'était une dame qui restait chez elle, qui était autonome, puis elle a repris toutes ses activités. C'est juste, elle prenait un petit coup de main pour sa récupération fonctionnelle.
Mm-hmm. On parle des 75 ans. En fait, c'est cette proportion d'âge-là, bien, c'est beaucoup les gens, justement, qu'on va rencontrer à l'hôpital. Puis c'est à cet âge-là qu'on commence à voir les complications de nos maladies chroniques aussi. Puis c'est là qu'on parle, justement, de fragilité de notre clientèle. Donc, C'est pour ça que tu sais le 15 % de les 75 ans et plus, faut s'en préoccuper parce que c'est eux qu'on va voir davantage dans nos hôpitaux et qui sont plus à risque de complications, de syndromes gériatriques. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas tous mettre les mêmes patients dans le même panier avec cette perte d'autonomie-là. En fait, la fragilité, c'est pas à tout. On a tous un exemple, justement, comme Dee vient de le dire, mais beaucoup de patients, encore aujourd'hui, on les voit, des patients âgés de 90 ans et plus qui vont faire du vélo électrique, qui vont encore descendre les pentes de ski. Fait que c'est pas la clientèle qu'on va voir davantage à l'hôpital, c'est seulement elle qui est beaucoup plus fragile. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'en préoccuper. Puis l'autre chose qu'il faut se préoccuper avec cette clientèle-là, c'est en raison de la perte d'autonomie puis les complications de leur maladie chronique, c'est qu'éventuellement, il va y avoir une surcharge aussi, une charge qui va être associée au prochain aidant. Fait que ça aussi, ça vient complexifier. Fait qu'on s'occupe pas seulement aussi d'une personne âgée, mais il faut s'occuper de leur famille puis des proches aidants. Fait que c'est pour ça qu'on s'en préoccupe aussi.
Et quand vous parlez de la fragilité, moi, je pense beaucoup à la fragilité d'un point de vue physique. Mais est-ce qu'il y a autre, je vais dire, gamme de fragilité? Je ne sais pas comment le nommer, là, mais...
C'est intéressant que tu nous emmènes là, Julie, parce qu'au-delà de la fragilité physique qu'on connaît mieux puis qu'on se représente mieux dans notre esprit, il y a aussi toute la fragilité sociale puis environnementale. Fait que, tu sais, une personne plus qu'elle vieillit, bien, plus qu'elle va vivre des deuils, l'isolement, des pertes de repères. Tu sais, je me souviens une fois aussi, une autre histoire, un exemple de patient, j'avais une dame qui était la proche aidante de son garçon qui avait 75 ans, puis elle avait 80... 14 ans, fait qu'elle l'avait eu quand même jeune, puis il était décédé, fait qu'imaginez le deuil qu'elle a vécu, c'était rester à domicile avec son fils, là ça a tout bousculé ses repères, tu sais, il y a beaucoup ça aussi dans la fragilité du vieillissement, là.
Mm-hmm. J'ai beaucoup aimé là, ce que vous dites, vieillir en santé. Je trouve ça vraiment intéressant puis stimulant, mais en même temps, bien, vieillir, on comprend aussi que c'est un processus qui est complexe, mais comment on fait pour distinguer là, ce qui est normal ou ce qui n'est pas normal dans le vieillissement?
Oui, bien, en fait, ça, c'est un concept, c'est important, lorsqu'on travaille en gériatrie, de faire la différence entre les deux, justement, le vieillissement normal et le vieillissement pathologique. La première chose, en fait, le pourquoi qu'on parle de ça, c'est pour éviter ces biais qu'on peut avoir, justement, quand on prend une personne âgée, quand on prend en charge ou qu'on s'occupe ou on fait une évaluation auprès d'une personne âgée. Il faut bien connaître c'est quoi du vieillissement normal. En fait, le vieillissement normal, là, c'est, on va tous y passer, c'est universel. On va parler, entre autres, un vieillissement normal là, de notre vitesse de marche qui va diminuer. Au niveau cognitif, on peut parler, entre autres, le traitement de l'information qui se fait moins vite, mais qui n'a pas d'impact fonctionnel, il n'y a pas de perte d'autonomie associée.
La fonte musculaire aussi, je crois que c'est un
oui,
impact
puis,
normal.
Oui, effectivement. Versus le vieillissement pathologique, ben là, on va plus dans un concept où est-ce que là, on va parler de problèmes de santé. On est beaucoup associé à, justement, nos diagnostics. Entre autres, les troubles neurocognitifs majeurs, l'arthrose. Fait que ça, c'est tous associés au vieillissement pathologique. Puis on peut même aller avec des choses très, très banales que tout le monde ont, entre autres les cataractes, mais c'est du vieillissement pathologique. Donc, lorsqu'on prend en charge une personne âgée, il faut faire bien la différence parce que sinon, on a des biais d'évaluation. Qui fait que souvent, on va intervenir sur des situations de soins qui sont normales pour les personnes âgées. Le classique qu'on présente souvent, qu'on parle, c'est les problèmes de s'endormir le soir. Ça fait partie du vieillissement normal de prendre plus de temps qu'habituellement de s'endormir. Et les jeunes, les personnes âgées vont en parler soit à l'infirmière ou au médecin. Puis on va avoir tendance à prescrire des médicaments, entre autres les benzodiazépines, pour aider au sommeil. Mais alors qu'on sait que cette médication-là a beaucoup de problèmes, ben, apporte beaucoup d'effets secondaires, d'interactions aussi médicamenteuses. Donc, c'est à éviter. Donc, faut bien connaître le vieillissement normal. Puis, l'autre biais qu'on a aussi avec le vieillissement normal ou pathologique, c'est que on prend pour acquis que... Enfin, on va pas intervenir sur un problème de santé parce qu'on se dit, ben toutes les personnes âgées ont ça. Alors que c'est pathologique. Le classique, l'incontinence urinaire. Fait que c'est un problème pathologique puis qu'il faut prendre en compte puis qu'on peut très bien régler lorsqu'on trouve la cause puis de bien évaluer parce que sinon, justement, on laisse tomber puis...
ça me faisait penser, justement, juste avant que tu le nommes, je pensais à l'incontinence. Ça amène le biais aussi de penser que toutes les personnes âgées deviennent incontinentes et ça amène le réflexe de leur mettre des culottes.
Exactement.
Dès qu'ils arrivent à l'hôpital. Donc, qui arrivent en hébergement, finalement, alors que c'est pas le cas du tout. Là.
Non, tout à fait. Puis même des fois... La personne elle-même, la personne âgée elle-même aussi va s'amener ce biais-là, comme de dire, ben je suis une personne âgée et c'est normal d'être incontinente. Donc, j'accepte de me faire mettre une protection ou de ne pas de parler de ce problème-là parce que aussi dans la population en général, c'est quelque chose qui est véhiculé. Fait qu'il faut faire beaucoup de prévention, promotion par rapport à ce...
Ou encore, ça arrive parfois que je m'échappe, donc je vais prendre la culotte. Non, on va vous amener à la toilette, madame.
Exactement.
Exactement. Puis avec votre expertise, là, je suis sûre que vous avez plein de trucs, plein de façons là, de détecter toutes ces complications-là du vieillissement puis de les prévenir là, peut-être aussi au niveau là, de la perte d'autonomie et de toutes les problématiques, là, qu'elles soient plus normales ou pathologiques, comme tu nous nommais.
Oui, ben un peu comme Véronique vous a mentionné, ben c'est important de distinguer qu'est-ce qui est normal ou pathologique dans le vieillissement. Véronique en a parlé, puis c'est un peu ce qui est mis de l'avant avec l'approche adaptée à la personne âgée en milieu hospitalier, qui est le cadre gouvernemental qui fait comme un peu encadrer la pratique en lien avec les soins à la personne âgée, qui donne des recommandations.
L'AAPA, parce que souvent les gens
exactement.
Le reconnaissent comme ça.
Oui, c'est ça, l'AAPA. Là, je ne vous referai pas le cours sur l'AAPA, mais tu sais, un petit rappel qui est intéressant quand même, qui est mis de l'avant avec cette approche-là, c'est vraiment l'acronyme d'évaluation d'une personne âgée qui sont les signes aînés. Je vous les répète, le A, c'est l'autonomie, le fonctionnel, le I, l'intégrité de la peau, le premier E, élimination autant physicale que fécale. Ah, j'ai oublié le N. Le N, qui est la nutrition et l'hydratation. Le deuxième E, l'état cognitif et les comportements. Puis le S, le sommeil. Fait que quand on voit une personne âgée, dans le fond, c'est de se dire un peu dans sa tête, de penser ces lettres-là. Y a-t-il quelque chose qui accroche? Y a-t-il quelque chose, justement, là, je suis à l'urgence, puis là, je suis posé de traiter un problème aigu, mais y a-t-il quelque chose que je pourrais regarder au niveau de ces lettres-là qui pourrait faire en sorte que peut-être je vais éviter une complication durant l'hospitalisation, peut-être que je vais le retourner chez eux avec une recommandation de quelque chose pour l'équipe de santé communautaire qui va finalement faire que la personne ne reviendra pas à l'urgence. Fait qu'avoir ça en tête, quand on a une personne âgée, là, les signes aînés, ça permet là, de bien évaluer puis d'éviter de passer à côté de quelque chose qui pourrait avoir un impact néfaste.
Dans le fond, en résumé aussi, les signes aînés, dans l'évaluation, c'est que quand tu utilises les signes aînés, c'est que tu viens chercher tes facteurs de risque associés, justement, qui peuvent amener soit une complication iatrogénique, puis même aussi, après ça, des syndromes gériatriques. On pense, entre autres, à nos déliriums, syndrome d'immobilisation. Fait que c'est là la beauté de l'acronyme aîné.
C'est ça, j'allais vous poser la question, justement, sur ces risques-là. Donc, on parle de déconditionnement, syndrome d'immobilisation, délirium, les chutes, les lésions de pression, les pneumonies nosocomiales, la dénutrition. Donc, il y en a plusieurs qu'on connaît, qu'on peut prévenir. Puis là, je vous pose la question comme ça, puis peut-être vous n'avez pas la réponse exacte, mais est-ce qu'on connaît à peu près la durée de séjour moyenne que ça peut entraîner chez ces patients-là, finalement, qui développent une de ces complications-là?
Mais comme tu dis, il n'y a pas de réponse claire, mais tu sais, on peut... moi, si je me fie à mon expérience clinique, Véronique pourra dire si elle est d'accord ou pas. Tu sais, ça peut être 2 à 3 semaines de plus minimum d'hospitalisation à cause d'une complication liée au déclin fonctionnel engendré par l'hospitalisation. Puis on a travaillé avec un gériatre qui s'appelle le Dr Guy Lacombe, puis il nous disait souvent que pour une journée de déconditionnement, c'est 3 jours de plus d'hospitalisation. Fait que, tu sais, quand tu fais le ratio, tu passes une semaine déconditionnée, ça va être 3 semaines de plus à l'hôpital.
Puis, c'est pas juste l'hospitalisation, c'est qu'ensuite, ben de plus en plus, on a développé nos unités de réadaptation. Fait qu'ils vont aller dans des unités de récupération, de réadaptation fonctionnelle. Fait qu'ils vont passer encore, des fois, dans ces milieux-là, un mois et demi. De plus d'hospitalisation.
Minimum, oui.
Puis tu sais, la prévention, finalement, tu sais, c'est pas juste en milieu hospitalier non plus. J'imagine qu'il y a certains tabous, certaines discussions qu'on peut avoir avec la personne aînée et ses proches aussi pour peut-être faire une certaine prévention hors hospitalier.
Bien, ce qui est intéressant, c'est quand tu parles de prévention, c'est que la prévention, elle commence dès maintenant. Fait que pour nous tous autour de nos micros, mais déjà de travailler à avoir une bonne alimentation, d'avoir des habitudes d'activité physique saine sans être exagéré, d'avoir des hobbies, de se stimuler intellectuellement. Déjà, en ce moment, on en fait de la prévention pour notre propre vieillissement. Fait que c'est important de rappeler ça aussi aux personnes âgées qu'on rencontre. Puis, tu sais, de doser aussi les attentes. Tu sais, qu'on va dire à une personne de 65 ans, bien là, il faut que vous fassiez plus d'activité physique. Bien, c'est plus, hey, bien, tu sais, vous êtes habitué que vous faites, vous n'en faites pas. Bien, peut-être de commencer à aller marcher, peut-être un petit jogging. Bien, vous aviez de l'intérêt pour le ski de fond. Bien, c'est-tu quelque chose que vous pouvez recommencer, regarder l'alimentation aussi avec eux, comme qu'est-ce que vous mangez, êtes-vous toujours au restaurant, suivez-vous le guide alimentaire canadien, c'est quoi vos activités, faites-vous du bénévolat, on peut faire ben des blagues avec des sauts de cul puis des mots croisés, là, mais reste que c'est des choses qui gardent le cerveau actif, comme toutes ces activités qu'on fait dans le temps des fêtes, là, un petit casse-tête, lire un roman, tout ça, fait que c'est des choses qu'il faut encourager chez nos personnes âgées.
Donc, tu sais, c'est sûr, cette autonomie-là, tout ça peut peut-être, par contre, venir de pair avec peut-être des risques de sécurité. Est-ce que ça se pourrait? Donc, par rapport, tu sais, quand on est confronté à ce désir d'autonomie-là de la personne, là,
Je rajouterais avec les propos de Didier par rapport à la prévention, on a parlé, c'est très tôt, hein, dès qu'on est, on vieillit, donc la prévention, c'est vrai que ça commence maintenant. À la retraite, il faut encore y penser aussi de garder nos habitudes de vie puis de continuer socialement à être actif et cognitivement, mais il ne faut pas oublier que la prévention continue malgré le fait qu'on est en perte d'autonomie puis qu'on a un trouble neurocognitif majeur. Parce que même c'est prouvé dans des études que de continuer à permettre à ces gens-là à être cognitivement actifs, les stimuler autant dans, au niveau physique. Puis, tu sais, la PA, qu'on est pour vraiment de garder leur capacité puis de les encourager à faire leur activité, leurs avécus, là, qu'on nomme souvent, là, l'hygiène, l'habillage. Bien, ça, c'est super important parce que ça va permettre de retarder même et de maintenir cette capacité physique et cognitive, là. Fait que c'est un, des fois, c'est un élément où est-ce qu'on pense que, bien, c'est la fin, il n'y a plus rien à faire, alors que continuer à encourager des activités autant physiques, cognitives, socialement, c'est très important même dans la maladie.
Donc, ça m'amène à vous poser la question, là, comment une infirmière ou encore une infirmière auxiliaire là, pourrait déterminer les meilleurs soins aux personnes âgées lorsqu'on est confronté donc au désir d'autonomie de la personne, mais aussi à la fois à leurs déficits fonctionnels et cognitifs qui peuvent être à risque donc et compromettre leur sécurité?
C'est vrai que ça serait fun d'avoir un petit guide qui nous dit quoi faire dans ces situations-là, parce qu'en toute honnêteté, il n'y a pas de recette prescrite lorsqu'on vient justement à répondre à ce dilemme un peu éthique, finalement, de cet enjeu éthique-là qui est toujours dans la sécurité versus l'autonomie. Hein, qu'on veut s'assurer, en fait, ce dilemme-là, bien, c'est surtout, bien, on veut une sécurité maximale, mais on sait que des fois, lorsqu'on met en place des interventions, le classique qu'on peut voir, justement, contention en lien avec les chutes, bien, évidemment qu'on va aller compromettre totalement l'autonomie du patient, on va même l'amener à perdre cette autonomie-là, puis d'autres complications. Donc, il faut faire... La sous-protection n'est jamais la bonne façon d'intervenir dans ce contexte-là. Puis l'autre élément aussi dans cet enjeu éthique-là, c'est surtout aussi la sécurité, mais la dignité du patient. Oui, il faut assurer sa sécurité, mais le patient a le droit de choisir. Il faut impliquer aussi le patient et sa famille dans la décision. Puis, il faut avoir une certaine... il y a un terme, là, la dignité du risque. Cette dignité-là, ben en fait, c'est de prendre un peu de recul puis d'accepter qu'il y a une certaine incertitude par rapport à l'autonomie du patient puis qu'il est possible l'événement, en fait, entre autres les chutes, puisse arriver. Donc, il faut...
Ouvrir le dialogue auprès des patients et de leurs proches à cet effet-là, j'imagine. Il faut les tenir au courant de ça, lui permettre de faire un choix libre et éclairé, finalement.
Oui, puis en fait, c'est toute l'approche de la décision partagée.
Oui.
Puis l'essentiel, en fait, lorsqu'on est dans la gestion de risque, c'est de respecter cette dignité-là, le choix. Oui, faut que pour pouvoir que le patient et la famille puissent prendre une décision, ben il faut qu'ils soient conscients, en fait, des conséquences, mais aussi des bénéfices associés à ce risque-là. La communication, c'est vraiment le centre de cette prise en charge-là pour justement ouvrir cette discussion-là. Il va falloir, avec le patient et sa famille, amener à expliquer, en fait, qu'un zéro risque, c'est impossible, puis de voir en fait les facettes justement en quoi ça peut être bénéfique pour justement sa sécurité, mais son autonomie, tout en respectant sa dignité.
J'ai toujours en tête la balance bénéfice-préjudice finalement qui Exactement. Me vient en tête, puis toujours aussi les droits fondamentaux de la personne, hein. Tu sais, qu'est-ce que cette personne-là aurait aimé qu'on fasse pour elle, dans le cas notamment, je parle plus des usagers peut-être inaptes parfois. Là.
Oui, ben, puis tu sais, quand on est dans vieillir avec la dignité du vieillir avec la dignité du risque, justement, on est beaucoup dans, c'est quoi les préférences de la personne? C'est sûr qu'on ne peut pas faire quelque chose qui n'existe pas, puis l'impossible, mais tu sais, où vous voulez vivre? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que votre réseau vous accompagne là-dedans? Un moment aussi, quand on vieillit puis qu'on est en résidence ou en hébergement, ben, tu sais, c'est d'y aller avec les... C'est quoi vos préférences quand vous mangez? Comment ça se passe l'hygiène? Puis ça, pour tout favoriser l'autonomie de la personne à travers ces choix-là aussi. Il ne faut pas partir d'emblée, mais la personne est en résidence ou en hébergement, on va tout faire pour elle. Mais qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Jusqu'où qu'elle peut se rendre pour préserver l'autonomie, pour préserver la dignité aussi? Puis, un exemple facile qu'on peut vous donner aussi, c'est à l'heure qu'on se couche. Tu sais, souvent, quand on est en résidence ou on est en hébergement, bien, puis qu'on travaille comme infirmier, bien, tu sais, vers 8-9 heures, on fait nos tournées du coucher, tout ça. Mais si la personne, elle se couchait à minuit, 1 heure du matin, qu'elle était chez elle, puis elle se levait à 10 heures, bien là, elle arrive en hébergement, puis là, on vient tout briser ça. Bien, c'est sûr que la personne, elle va s'opposer qu'elle ait des troubles neurocognitifs ou pas, puis qu'on vient changer ses habitudes. Fait qu'il faut essayer de travailler aussi sur un peu une certaine personnalisation des soins avec les personnes âgées, surtout quand on est dans un contexte d'hébergement, pour essayer de suivre le rythme de la personne puis que de travailler avec ses préférences. Quand on est à l'hôpital, c'est un peu plus difficile. T'sais, on est dans un contexte de soins critiques ou de soins actifs. Fait que là, il y a quand même des certaines routines. Il y a d'autres patients qu'il faut considérer. Mais quand on arrive dans l'hébergement, mais là, on peut tendre vers quelque chose d'un peu plus personnalisé. C'est un peu vers cette approche-là que veulent aller les maisons des aînés.
Mm-hmm, tout à fait.
Puis ça, c'est quoi notre responsabilité professionnelle là, dans cette gestion-là du risque auprès de la personne âgée en perte d'autonomie là, fonctionnelle et cognitive, mais tout en ayant à cœur là, le respect de ses préférences puis peut-être de ses habitudes aussi là, dans sa vie là, de cette personne-là?
Bien, notre responsabilité, c'est vraiment l'évaluation puis la prévention. T'sais, évaluer, c'est quoi la gravité, la fréquence des risques, proposer des stratégies pour les réduire, surtout aussi documenter les décisions, documenter que les discussions ont eu lieu, qu'on a expliqué la balance entre le risque versus l'autonomie, puis que le choix a été fait de concert avec le patient puis sa famille. C'est ultimement de ne pas éliminer les risques, mais de les rendre acceptables et tolérables.
L'autre responsabilité aussi, c'est souvent les infirmières, on a l'impression qu'on s'en met beaucoup sur les épaules, puis que s'il arrive l'événement ou l'incident, dont la chute, que ça va reposer en fait que c'est un peu de notre faute. Fait que au niveau, là, je parle oui. Peut-être plus dans ta branche, mais en fait, ce qui est important, lorsqu'on le dit tout à l'heure, la communication, d'évaluer le niveau de risque. Hein. Un niveau de risque, c'est peut-être un peu la recette que je peux te donner, là, mais c'est toujours un peu dans l'événement, la nature, la gravité de la conséquence, dont la chute, hein, un trauma de tête qui peut arriver, et la fréquence aussi de cet événement-là qui peut arriver. Donc, est-ce que ça arrive à tous les jours ou c'est ça arrive une fois de temps en temps? Fait que là, ton niveau de risque n'est pas le même. Puis une fois que cette évaluation-là, puis que la communication, puis que tout le monde s'entend, patient, famille, l'infirmière, bien, l'important, c'est de consigner ça dans le dossier, puis de rendre cette décision-là, puis de la rendre transparente.
En fait, c'est ça. Je peux pas m'empêcher de réagir là-dessus parce que l'exemple des chutes, c'est celle que j'utilise toujours quand je parle de l'obligation de moyens qu'on a comme professionnel de la santé et non pas une obligation de résultat. Puis je le dis toujours un peu là, assez concrètement, on préviendra jamais 100% des chutes. C'est quasi impossible. Par contre, on a la responsabilité de mettre des moyens en place. Et la documentation que tu nommes, mais ça sert à faire une traçabilité finalement des moyens qu'on a tenté de mettre en place. Les fameux plans d'intervention interdisciplinaires, les PI, les plans thérapeutiques infirmiers, les PTI, ça sert à ça, notamment, laisser une traçabilité de nos moyens.
Bien, exactement, puis c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui a été dit, qu'il y a quelque chose qui a été évalué, qu'il y a une intervention qui a été mise en place, qu'il y a un partenariat qui a été créé. Puis après ça, ben, on serait, s'il arrive un incident, on se réfère au dossier, puis la responsabilité de l'infirmière ou de l'infirmière auxiliaire est intacte.
Je le dis toujours, l'évaluation est un processus dynamique.
Exactement.
Oui, tout à fait.
Dans le balado Savoir et stéthoscope, on aime beaucoup ça, explorer les différents secteurs de soins, la profession infirmière, infirmière auxiliaire, tout ce qui est possible. Puis là, ben, on essaie de démontrer, puis on le démontre très bien jusqu'à maintenant, à quel point la gériatrie peut être tendance. Donc, est-ce qu'on fait un petit tour d'horizon? L'infirmière, avec dans le domaine de la gériatrie, ben, ça pourrait être quoi les secteurs que vous connaissez là, qui pourraient être tendance?
Écoute, Sophie, tu as bien raison. Puis j'aime ça qu'on dise que la gériatrie, c'est tendance parce que des personnes âgées, il y en a partout. Moi, je dis souvent à mes étudiants quand j'enseigne, si vous n'êtes pas intéressé à travailler avec les personnes âgées, cochez obstétrique le plus vite possible sur votre registre de poste parce que sinon, c'est sûr qu'il y a des personnes âgées, peu importe le domaine où c'est que vous allez travailler, c'est pas seulement en CHSLD, mais elles sont partout. Fait que c'est pour ça qu'il y a une panoplie de postes dans l'organisation ou de rôles qui mettent en valeur cette expertise-là auprès des personnes âgées. Le premier que Véronique et moi voulaient vous partager, c'est vraiment les infirmières cliniciennes à l'équipe de consultation de gériatrie. Ça, c'est un rôle qu'on occupait les deux. C'est là qu'on s'est connus, d'ailleurs, il y a quelques années. Mais c'était vraiment... un rôle qui permettait justement de prendre le temps d'évaluer les personnes âgées dans tous les domaines en centre hospitalier. Là, autant quand on était au CHU à Fleurimont, on allait en neurochirurgie, en cardio, à l'Hôtel Dieu médecine de famille. Maintenant, il y en a à Magog, à Coinsville, je pense à Grimby aussi. Fait que c'est vraiment des infirmières qui réalisent des évaluations gériatriques globales, autant la cognition, la mobilité, l'autonomie, la polypharmacie, le risque de délirium, puis qui font des recommandations à l'équipe soignante, puis même à l'équipe traitante sur comment on peut, au niveau des soins infirmiers, mieux accompagner ces personnes-là pendant l'épisode hospitalier. Souvent, la porte d'entrée pour avoir ces infirmières-là, c'est une demande de consultation. Les médecins en font pour les gériatres, puis les infirmières peuvent en faire pour avoir l'avis d'une infirmière clinicienne spécialisée.
Ça, c'est le genre de poste qui m'interpelle énormément, là. Puis j'ai une question justement pour vous, là. C'est qu'est-ce que votre regard comme infirmier et infirmière là, à l'équipe de consultation gériatrie apportait de différent dans la prise de décision clinique?
Bien, lorsqu'on fait l'évaluation, puis moi, j'aime le qualifier d'une évaluation avancée en gériatrie. Fait qu'évidemment, on va vraiment regarder ben, quelle était l'autonomie initiale du patient, puis aujourd'hui, puis là, on est capable de mettre en place des interventions très spécifiques pour améliorer, maintenir, ben, surtout améliorer son autonomie. Ça nous permettait d'orienter notre patient vers des milieux de réadaptation au lieu de se dire ouais il est en grande perte d'autonomie, il y a plus rien à faire, je pense que ça va être un cas d'hébergement. Au contraire, nous on venait vraiment faire une grande évaluation, puis on était capable de mobiliser en fait un peu cette capacité résiduelle en fait du patient pour permettre justement d'aller vers des milieux de réadaptation.
Oui, puis ce qui est intéressant aussi dans ce poste-là, c'était toute la perspective interdisciplinaire. On travaillait avec des gériatres, avec les médecins traitants, les équipes soignantes, mais aussi physio, ergothérapeute, travailleur social, nutritionniste. Moi, j'avais 22 ans quand j'ai eu ce poste-là et j'ai découvert c'était quoi l'interdisciplinarité. Puis c'était pas un rôle qui était plus important que l'autre, c'était vraiment une équipe qui faisait que c'était complémentaire quand on voyait le patient. Puis nous, comme infirmiers, infirmières cliniciennes, je trouvais qu'on était un peu le ciment qui collait toutes ces briques-là ensemble pour proposer un plan qui faisait du sens pour le patient et sa famille.
L'autre élément aussi de ce rôle-là, bien, ce qu'on a vécu, moi, puis Didier, c'est qu'on était des modèles de rôle aussi.
Oui.
On se promène partout sur toutes les unités. Les gens nous voient arriver, ils nous disent, ah, les infirmiers de la gériatrie, c'est vrai, je vais asseoir mes patients au repas, je vais aller faire marcher un patient. Des fois, on entendait ça, ou justement, ah oui, je vais bien évaluer, tu sais, mon patient, faire, bon, les évaluations du CAM, on connaît tout ça, pour le délirium. Fait que ça permettait de transmettre juste des fois par notre présence cette approche en gériatrie.
On s'entend, on n'était pas la police du vieillissement, mais n'empêche qu'on était capable d'accompagner les gens dans leur approche avec un petit peu d'humour puis de la bienveillance surtout.
D'amener la réflexion surtout.
Oui, beaucoup de réflexion.
Autre élément, Didier, tu me fais penser aussi, oui, on était un peu le modèle de rôle, mais on soutenait aussi l'équipe.
Oui. Parce
que comme Didier disait, une infirmière peut nous demander justement lorsqu'on a un patient avec plus de complexité ou de tu sais, entre autres, là, par exemple, les SCP. Qu'on peut avoir à l'hôpital. Donc, ils peuvent nous demander justement notre aide, puis qu'on puisse aller faire un plan de traitement ou d'identifier en fait quel type de SCPD, quel type d'intervention qui pourrait être privilégié, puis d'offrir un suivi puis un soutien à l'équipe par rapport à ces gestions.
je suis pas sûre que tout le monde connaît, mais SCPD?
Symptômes comportementaux et psychologiques de la démence.
Qu'un patient vous fait bien du trouble là, sur l'unité. Là.
À un moment donné, j'étais de passage à l'urgence à l'Hôtel-Dieu, puis j'ai croisé une infirmière clinicienne là, à l'urgence gériatrique, mais je ne connaissais pas trop son rôle. Peut-être que vous, vous savez un peu plus, vous pourriez m'éclairer à ce sujet-là.
Hey, vous avez la fille qui a mis ça en place, justement, au CIUS Lestrichet avec vous, Véronique Poulin. Explique-nous c'est quoi, Véro?
Ben ça, c'est un projet qui est arrivé, en fait, suite à un médecin d'urgence qui a fait un fellow en gériatrie, puis qui s'est inspiré des modèles américains d'urgence gériatrique. Puis quand elle est arrivée, elle s'est dit, moi, je veux implanter ça. Donc, sont venus, justement, je suis issue de l'équipe de consultation en gériatrie, comme on vient de parler. Donc, pour faire d'une urgence gériatrique, ben ça prend une infirmière en gériatrie, une infirmière spécialisée même dans les modèles américains là, qui nous suggère. Donc, on a mis ça en place. Essentiellement, l'infirmière en gériatrie va voir justement cette clientèle 75 ans et plus, comme pour les raisons qu'on nommait tout à l'heure au début du balado, là, parce que c'est notre clientèle qui est beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus fragile. Puis, on est vraiment là pour favoriser cette fluidité-là, à l'urgence, mais surtout identifier le patient âgé que j'ai à l'hôpital, est-ce qu'il nécessite réellement d'être hospitalisé? Parce qu'il faut se le dire, on n'est pas très bon en gériatrie une fois hospitalisé. Même si la PA est là, on le sait, c'est délétère, hospitaliser une personne âgée.
Ben, ça m'amène justement à cette question-là rapidement. Là, c'est quoi les pièges les plus fréquents quand on évalue la personne âgée à l'urgence?
Bien, souvent, nos personnes âgées arrivent. Le classique, justement, de la chute, c'est souvent arrivé. Fait qu'ils sont déjà en grande souffrance, sont très plus vulnérables. Ils ont de la douleur aussi. Puis là, ça ajoute, en fait, une couche un peu à leur fragilité. Fait qu'on a l'impression qu'ils ne seront pas en mesure de retourner à domicile. Alors que, tu sais, il faut aller voir un peu... le patient autour, sa famille, qu'est-ce qui est possible de faire. Mais il y a beaucoup de choses qui existent aussi en externe. Les gens qui travaillent à l'urgence ne sont pas nécessairement connaissants de tous les programmes qui peuvent être offerts, soit par des services de santé les services communautaires, les services au CLSC. Donc, nous, on vient aider justement à regarder est-ce que ce patient-là a les capacités de retourner un, mais est-ce qu'il y a aussi des services qui pourraient venir pallier justement, peut-être juste en lien parce que c'est un nouvel événement, parce que c'est une nouvelle douleur et qui va se résorber dans quelques jours au lieu de l'hospitaliser.
Est-ce qu'il y a d'autres secteurs que vous avez en tête peut-être là, où est-ce que la gériatrie est mise à l'honneur pour les infirmières dans leur pratique?
Bien, entre autres, il y a les unités de courte durée gériatrique, communément appelées les UCDG, où aussi on a les unités de gériatrie active. Puis en quoi ces milieux-là se distinguent? Bien, souvent, c'est des milieux de récupération fonctionnelle ou on va dire de réadaptation. Puis on entend beaucoup parler, hein, quand on est sur une unité de soins, mon patient s'en va à l'UCDG, s'en va à l'UG, mais... Moi, avant d'être à l'équipe de consultation gériatrique, je ne savais pas ce que les patients allaient faire là. Mais c'est vraiment des unités qui sont spécialisées dans les soins aux personnes âgées. Quand on est en UG, gériatrie active, c'est qu'on est dans le niveau hospitalier. Fait que là, c'est des gériatres qui prennent en charge les patients avec du personnel qui est spécialisé en gériatrie. Fait que le but, c'est de travailler à la fois le traitement médical du patient qui est actif, mais aussi initier la récupération fonctionnelle du patient pour éviter des complications ou les résoudre là, comme des déconditionnements, des déliriums. Tout ça. À l'UCDG, là, on va vraiment être plus dans une vocation d'évaluation gériatrique, on va dire à moyen terme. Là. C'est-à-dire que là, la personne elle avance dans ses troubles neurocognitifs ou elle a des éléments de fragilité qui sont plus difficiles à se résorber. Fait que là, ça va être pour déterminer bien, c'est qu'est-ce qui est le plus sécuritaire pour elle au terme de l'hospitalisation.
Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu des services plus en clinique ou en services externes de gériatrie, justement. Notamment la gérontopsychiatrie. Je trouve ça particulièrement intéressant.
Oui, ça fascine la gérontopsie. Hein? Puis on dirait que c'est un peu exotique comme terme. En fait, la gérontopsychiatrie, ça rallie, ce que j'appelle les meilleurs ennemis dans les soins infirmiers, la gériatrie et la santé mentale. C'est des domaines qui sont moins populaires ou puis en plus on, qui s'opposent un peu. Moi je me souviens que des fois on avait des patients en consulte, c'était comme il était en, justement en unité de santé mentale, puis ils disaient ben non, c'est des cas de gériatrie, ça n'a pas d'affaire chez nous, ça devrait être en médecine. Puis des fois il y a des cas en médecine de personnes âgées qui ont des problématiques de santé mentale, puis là les gens ils sont comme non non, il faut que vous l'envoyez sur une unité de santé mentale, elle devrait pas être avec nous. Là, il y a pas de bonne réponse pour eux. Puis souvent les, la gérontopsychiatrie, il y a pas d'unité de ça, c'est vraiment en service externe. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est les meilleurs ennemis. Qu'est-ce que ça fait une infirmière qui travaille dans ce type de clinique-là? Ben, c'est vraiment d'accompagner les personnes âgées et leurs proches surtout qui vivent avec des troubles de santé mentale et aussi des troubles qui sont reliés au vieillissement cognitif, souvent les troubles neurocognitifs majeurs. Puis il assure l'évaluation, le suivi, l'enseignement aux proches, puis la coordination des soins vraiment avec au cœur une approche non pharmacologique pour traiter ces comportements-là. Fait que tu sais, au lieu d'être dans la contention, ça va être plus d'aller avec des stratégies comme, ben, y a-tu réorganisé l'horaire, y a la réminiscence, des approches qui sont plus apaisantes. Travailler aussi l'émotion. Souvent, quand on vieillit, la mémoire qui reste le plus longtemps, c'est la mémoire affective, la mémoire émotive. Fait que des fois, c'est juste dans notre affect, puis dans comment qu'on réagit aux situations envers la personne qui a des troubles de comportement, qu'on peut désamorcer la crise. Fait que c'est vraiment de travailler avec les gens pour soutenir le milieu, que ça soit une résidence ou le milieu de vie, pour que la personne puisse rester là longtemps, mais en même temps qu'elle ne soit pas dans une situation, les proches, de détresse face à ces comportements-là.
Mais tu parles de mémoire, justement, mais il n'y a pas les cliniques de mémoire aussi?
Oui, les cliniques mémoire, ça aussi, c'est intéressant. C'est vraiment là qu'ils vont faire... Soit c'est le médecin de famille qui va référer des patients-là quand ils savent qu'il y a des petits débuts de peut-être troubles cognitifs. Puis là, ils vont vraiment évaluer s'il y a des troubles neurocognitifs majeurs qui sont en train de s'installer. Puis souvent, c'est un moment qui est charnière dans ce parcours-là parce que là, ils vont avoir l'annonce du diagnostic. Puis les infirmières, ils ont un rôle majeur là-dedans parce que souvent, le médecin, lui, son travail, c'est d'annoncer le diagnostic, de dire ben, pourquoi il en vient à cette conclusion-là. Puis après ça, les patients, leur famille s'en va avec l'infirmière qui est spécialisée en clinique mémoire. Puis là, elle, il faut vraiment qu'elle prenne le temps de reprendre ça avec eux, de laisser le temps d'accueillir la nouvelle. Tu sais, c'est un diagnostic, tu te dis, hey, là, je vais en venir à oublier ma vie, oublier mes proches, tu sais, je vais mourir, puis j'aurai plus connaissance de la fin de ma vie. Fait que tout déconstruire ça avec eux, c'est quoi les options? C'est-tu si pire que ça? Y a-tu de la médication? Quand est-ce que ça s'applique? Fait que, tu sais, c'est tout le travail de cette infirmière-là d'accompagner les patients et les familles vers, je dirais pas l'acceptation du diagnostic, mais quand même de rendre ça un peu plus doux, un peu plus prévisible quand même, puis de cheminer là-dedans.
Avec ce que tu dis, le rôle de l'infirmière est vraiment très important et charnière dans l'annonce de ce diagnostic-là.
Varié même.
Très
hein?
Varié. Je sais qu'il y a plein de secteurs, les cliniques de chute, les soins à domicile, gestion de cas, mais là, j'aimerais ça qu'on parle du secteur le plus populaire, qu'on entend parler énormément quand on pense aux personnes âgées, les CHSLD.
OK, ben je sais pas si populaire c'est le bon terme, là, mais en tout cas,
disons, clairement... en vogue dans les médias.
Ouais, en vogue dans les médias, puis en début de carrière, souvent, nos nouvelles infirmières sont envoyées dans ces milieux-là, envers et contre elles-mêmes, des fois. Mais moi, souvent, c'est ça que je dis aux étudiants quand on leur enseigne, je suis sûr Véronique a dit la même chose aussi, c'est, vous comprenez-tu, quand vous travaillez en CHSLD, la panoplie, vous exercez l'ensemble de votre champ de pratique, vous avez une autonomie, mais une responsabilité aussi qui est grande. Là, vous avez les personnes âgées d'une unité, c'est pas passer des pilules, là, travailler en CHSLD, puis c'est pas changer des culottes d'incontinence. C'est sûr que c'est une stratégie quand même pour se faire accepter par l'équipe puis collaborer, mais ultimement, ils sont responsables d'accompagner les personnes dès l'admission jusqu'à la fin de la vie. Là, ça va venir avec, travailler en CHSLD, souvent ça vient avec une approche palliative, des soins de fin de vie, ça vient avec de l'accompagnement des familles, des fois qui vivent le deuil d'une personne qui connaissent encore, mais qui n'est plus comme elle est. Puis aussi, pour eux, la perte de contrôle. Tu sais, quand tu es une proche aidante puis tu es habitué de gérer l'accompagnement d'une personne, puis là, tu délègues ça à une équipe, des fois, c'est difficile de faire cette coupure-là. Fait qu'il faut vraiment utiliser de l'approche, une approche bienveillante puis de transition avec ces gens-là. Puis c'est aussi tout gérer ce qui se passe sur l'unité de soins. Ben, les infirmières auxiliaires, qu'est-ce qu'ils font? Les préposés vers quels patients qui vont devoir donner de l'attention dans cette soirée-là? Fait que c'est vraiment accompagner les équipes. Il y a une tâche de gestion qui est quand même sous-estimée là-dedans. Moi, ça me fait rire parce que des fois, les étudiants, ils disent, moi, ce que je veux, c'est je veux devenir gestionnaire. Hey, quand tu travailles, il n'y a pas meilleure école que de travailler sur une unité de CHSLD pour voir si c'est fait pour toi de gérer des situations de gestion.
Moi, j'arrête pas de le dire à nos novices. Si tu veux parfois ton évaluation clinique, ton raisonnement critique et ton leadership clinique, justement, là, va-t'en en hébergement.
Oui, puis il y a personne qui nous paye là, pour dire ça aujourd'hui. Là. C'est la réalité. Si vous êtes là, tu vous dis « Hey, je viens pour mettre à profit mon expertise », plutôt de dire « Oh mon Dieu, je travaille en unité de longue durée, ça va être plate depuis longtemps, on va, avec un peu de chance, je vais jouer aux cartes », c'est pas ça. Là. Au contraire, c'est vraiment mettre de l'avant ton leadership. Ça, je trouve que ça l'emmène les infirmières vers des habiletés de pratique avancée.
Mais vous avez su vraiment nous présenter tous ces secteurs-là de façon dynamique. J'espère que, comme vous, moi, en tout cas, ça m'inspire énormément. Puis je pense que c'est des secteurs là, qui méritent d'être explorés.
Oui, vous avez bien raison.
Des accomplissements extraordinaires par des gens dévoués. Voici le coup de cœur de la DSI.
Donc aujourd'hui, notre coup de cœur, on avait envie de parler et surtout de remercier nos collaborateurs et collaboratrices de l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke, c'est-à-dire tous ces professeurs chargés de cours, chercheurs, chercheuses, de même que les étudiants et étudiantes qui acceptent de nous donner du temps là, pour vous présenter des contenus balado variés et de qualité à savoir esthétoscope. On sait qu'en tant qu'établissement affilié, donc à l'Université de Sherbrooke, on a une mission universitaire comme CIUS qui comporte 7 volets, notamment le transfert de connaissances et le rayonnement. Alors, nos partenaires, l'université, ça contribue à ce transfert de connaissances-là en partageant avec nous et vous, les auditeurs et auditrices, leur savoir scientifique en appui sur leurs recherches ou leur domaine clinique spécialisé. De même, la collaboration aux épisodes du balado, ça contribue aussi à faire rayonner ce projet, donc qui est le balado comme une initiative d'intégration. Donc, merci à toi, Didier, Véronique, de même qu'à vos collègues qui ont participé puis qui vont participer sous peu à faire de Savoir Esthétoscope un balado qui est riche en contenu, qui est fondé sur les pratiques exemplaires, les données probantes, mais surtout qui constitue un levier non négligeable de savoir et de transfert de connaissances.
Encore une fois, merci pour votre présence, Didier, Véronique. Ça fait un réel plaisir de vous avoir avec nous.
C'est un plaisir partagé.
Encore cette année, un total de 10 épisodes vous sera présenté à Savoir et Stéthoscope. Nous sommes en pourparlers afin de vous offrir d'autres contenus plus captivants les uns que les autres avec des invités experts en studio. Demeurez à l'écoute pour en savoir davantage. C'était vos animatrices Sophie Martin et Julie Blanchette. Voici ce qui conclut ce balado de la Direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu. À la prochaine!
Le balado de la Direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu, Savoir et Stéthoscope, est produit et réalisé entièrement par l'équipe de la DSI. Ce balado a été enregistré et monté dans les studios de CEFAC 88.3 à l'Université de Sherbrooke. Merci à eux. À la prochaine pour plus de Savoir et Stéthoscope.